Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 40e soirée d'éthique publique, la 5e de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue à nos amis qui sont reliés par l'image et le son à Lyon, réunis à l'espace Saint-Ignace, ceux de Poitiers. Et une salutation toute particulière à nos amis de Bordeaux, réunis à l'église Notre-Dame-des-Anges, et qui comptent parmi eux ce soir un auditeur averti pour partager nos réflexions, puisqu'il s'agit de Mgr Jean-Pierre Ricard, cardinal archevêque de Bordeaux. Nous savons, Mgr, combien le sujet de ce soir est un thème qui vous est particulièrement cher, qui rejoint vos préoccupations, vos réflexions. Merci d'être avec nous par médias interposés. Avant d'entrer dans la présentation de notre thème, je rappelle qu'il est toujours possible de s'inscrire à l'accueil ou au secrétariat si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre. De même, il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement des séances des rencontres précédentes sur le site internet du Centre Sèvres. Alors, le mois dernier, nous nous sommes interrogés sur l'avenir de l'Europe. Un mois environ après la remise du prix Nobel de la paix aux institutions européennes, quelle Europe voulons-nous, quelle Europe pouvons-nous, aidés dans notre réflexion par deux Européens convaincus, M. Alain Lamassoure et M. Jérôme Vignon. Le mois prochain, ce sera un petit changement de date, ce ne sera pas le premier mardi du mois, ce ne sera pas le 5 mars, puisque ce sera les vacances du Centre Sèvres, mais ce sera le mardi 12 mars, et nous nous pencherons, c'est à confirmer parce que ce n'est pas encore tout à fait calé, mais très vraisemblablement sur les enjeux de santé pour notre pays. La médecine doit-elle et peut-elle rester un service public? Ce soir, c'est la question de l'évolution de la laïcité dans notre pays qui nous intéresse, qui nous rassemble. On peut rapidement définir la laïcité comme la séparation entre le religieux et l'État. La première définition de la laïcité a été, je crois, proposée par Fernand Buisson en 1887 dans son dictionnaire de pédagogie. Il faisait de la laïcité la sécularisation des institutions politiques d'un État. La définition s'est ensuite élargie, la laïcité devenant une sorte de principe d'unité rassemblant des hommes de différentes religions et opinions au sein d'une même société, comme le définit Jean Bobéreau, sociologue de la laïcité. La laïcité, c'est à la fois un règlement juridique et un art de vivre ensemble. Alors, jusqu'au début du XXe siècle, et même après, nous le savons, l'idée de laïcité représentait avant tout, en pratique, la volonté de réduire l'influence de l'Église catholique sur les institutions, cette influence étant identifiée comme une menace majeure pour les valeurs républicaines. Et peu à peu, eh bien, les relations se sont apaisées entre l'Église, les chrétiens et la République, comme en témoignent les 50 dernières années où les chrétiens se sont plutôt sentis à l'aise dans ce système de laïcité à la française. Concrètement, le principe de laïcité est inscrit dans notre Constitution, a été précisé par plusieurs textes, dont le plus important reste sans doute, nous le savons, la loi de 1905. Le principe de laïcité garantit l'indépendance et la neutralité de l'État par rapport aux religions, mais aussi la liberté de conscience et donc de religion des citoyens, ainsi que le libre exercice des cultes. La laïcité à la française ne devrait donc pas signifier l'ignorance ou la méconnaissance des religions et l'apport de celles-ci à la société. La laïcité se veut un cadre qui doit permettre à tous, croyants ou non-croyants, de vivre ensemble. Mais ces dernières années, les choses ont évolué, un contexte religieux différent, marqué à la fois par une sécularisation massive, l'installation de l'islam dans la société française, le souci aussi de l'Église et des chrétiens que leurs paroles puissent être entendues dans le débat des idées, peut-être à certains moments et dans certains milieux, un anticléricalisme prêt aussi à ressurgir. Tout cela et bien d'autres éléments ont conduit à voir le modèle de laïcité à la française chahuté et remis en cause. Certains voudraient voir ce principe de laïcité réaffirmé avec force, d'autres le voir évoluer pour tenir compte des évolutions de la nouvelle réalité française, chacun le plus souvent ayant sa propre définition et sa propre conception de la laïcité. Qu'en est-il vraiment ? Où en est la laïcité à la française ? Alors que le président de la République a annoncé, je crois que c'était en décembre dernier, qu'un observatoire national de la laïcité verrait le jour en 2013, il nous a paru important de réfléchir ensemble aux enjeux de la laïcité pour notre société. Alors pour nous aider dans notre compréhension de ces enjeux, je suis très heureux d'accueillir en votre nom nos deux invités, Monsieur Philippe Portier. Vous êtes tout d'abord originaire d'une très belle ville de Bretagne Sud, sur les bords du golfe de Morbihan, ce qui, à mes yeux, fait de vous une personne de grande qualité. Mais vous êtes aussi, depuis 2007, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où vous occupez la chaire Histoire et sociologie des laïcités, et où, depuis 2008, vous êtes directeur du groupe Société, Religion, Laïcité. Agrégé de sciences politiques, vous étiez, avant d'être élu à la Sorbonne, professeur à l'Université de Rennes 1, dont vous dirigez le master de sciences politiques et l'école doctorale droit, sciences politiques et philosophie, membre durant plusieurs années du Conseil national des universités. Vous êtes également professeur à Sciences Po, Paris, où vous enseignez la théorie politique. Vos recherches portent principalement sur la sociologie et la philosophie de la laïcité française, la relation religion-politique, la sociologie du catholicisme, et plus largement, la théorie de la démocratie et la philosophie politique. Je ne citerai ici que quelques-uns de vos ouvrages qui illustrent ces champs de réflexion. Église et politique en France au XXe siècle, aux éditions Montchrétien en 1994. La pensée de Jean-Paul II, la critique du monde moderne, aux éditions de l'Atelier en 2006. Deux ouvrages collectifs, Pluralisme religieux et citoyenneté en 2009 et La modernité contre la religion pour une nouvelle approche de la laïcité en 2010, tous les deux aux presses universitaires de Rennes. Enfin, plus récemment, en 2011, Droit, éthique et religion, de l'âge théologique à l'âge bioéthique, paru aux éditions Brûlant. Merci, cher Philippe, de votre présence ce soir. Est-il besoin de présenter mon second invité, Guy Coq, philosophe, agrégé de philosophie, spécialiste de la philosophie de l'éducation? Vous avez longtemps, je parle sous votre contrôle, enseigné la philosophie au lycée Maurice Genevoix de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, et vous avez été professeur à l'IUFM de Versailles, ainsi qu'à Poitiers, je crois, pour la formation pédagogique des professeurs de philosophie. Président d'honneur de l'association des Amis d'Emmanuel Mounier, vous êtes un collaborateur régulier de la revue Esprit, où vous traitez des questions d'enseignement et d'éducation. Vous vous êtes beaucoup investi dans une réflexion sur la laïcité ces dernières années, à partir notamment des relations entre école et société, et vous avez pris part activement au débat autour des notions de laïcité ouverte, de laïcité positive. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Démocratie, religion, éducation, 1993, chez Fleurus Mam. Que m'est-il arrivé, la même année aux éditions du Seuil. Laïcité et République, le lien nécessaire, aux éditions Le Félin, en 1995. Et chez le même éditeur, La laïcité, principe universel, en 2005. Enfin, l'ouvrage sorti il y a quelques mois, La foi, épreuve de la vie, aux éditions Parole et silence. Merci beaucoup, Guy, de votre présence ce soir. Il est temps de vous laisser la parole pour que nous profitions de votre analyse. Où en est la laïcité à la française ? 20 minutes de parole, comme nous en avons l'habitude chacun. Avant d'entamer le débat, je laisse la parole à Philippe Portier.
Merci, cher François. Mesdames et messieurs, sans doute faut-il, pour comprendre le moment présent, opérer une sorte de remontée rétrospective et essayer de comprendre comment notre système de laïcité, car ça n'est qu'un système de laïcité parmi d'autres, s'est installé, s'est instituée dans la société française. La civilisation moderne, qui se construit quelque part autour de 1700, est marquée par le grand principe de séparation, séparation du religieux et du politique. Jusqu'alors, avec comme point nodal la révolution de 1789, jusqu'alors, le pouvoir est assigné à l'unification des consciences. Il s'agit de rassembler les populations autour d'une même norme, la loi de Dieu que le prince, institué lui-même par la Providence, a charge de transcrire dans son droit positif. Ce moment disparaît, s'efface, avec la grande révolution moderne des XVIIe, XVIIIe siècles, pour trouver, je le répète, son point d'aboutissement au moment de la Révolution française. On entre alors dans la grande époque de la laïcité. Une époque de la laïcité qui se caractérise par deux grands principes. Le premier, c'est le principe de distanciation du pouvoir politique d'avec la loi religieuse. Et puis le second principe, qu'il ne faut jamais négliger, c'est l'enrôlement de ce pouvoir politique au service de la liberté de conscience. Enrôlement du pouvoir politique au service de la liberté de conscience, on en a fini avec le régime unificateur des conduites et des pensées. Il s'agit maintenant de saisir la société dans toute sa pluralité. Le problème, c'est que cette civilisation moderne ne s'est pas inscrite dans les réalités juridiques partout en Europe de la même manière. On peut repérer sur le continent européen deux grands modes d'accession à la citoyenneté laïque. Il y a tout d'abord, dans le nord de l'Europe essentiellement, peut-être faudra-t-il s'interroger sur cette question, disons du côté des pays scandinaves, mais j'y intègre aussi l'Angleterre, un modèle dit de confessionnalité, où l'on voit l'État, alors même qu'il accepte sa propre souveraineté, qu'il se détache de la loi de Dieu, affirmer cette idée qu'une religion, parmi d'autres, la religion luthérienne, pour ce qui concerne les pays scandinaves, doit être protégée, éventuellement encouragée par l'État, tandis que les autres religions se trouvent réduites à n'avoir qu'un statut de minorité. Nous sommes pourtant en modernité. Il existe une autre façon d'envisager les choses, qui est le modèle de séparation qu'on va voir se mettre en place plutôt dans les pays de l'Europe intermédiaire ou de l'Europe du Sud. Mais un modèle de séparation qui va comporter deux grandes variantes, un modèle de séparation souple, du côté par exemple de l'Allemagne ou de la Belgique, et puis un modèle de séparation plus stricte, de séparation rigide, dit-on, qui caractérise l'espace politique français. Alors ce modèle repose sur l'absence de toute reconnaissance positive accordée à quelque culte que ce soit. L'espace politique, l'association politique, se fonde dans la suspension de toute croyance, de toute reconnaissance d'une religion particulière. Il y a donc en Europe une sorte de singularité française. L'Europe est marquée par une conflictualité, probablement la France est marquée par une conflictualité probablement plus grande que dans les autres pays européens entre le pôle religieux et le pôle politique de notre société. Et puis s'ajoute à cela le fait qu'en France, nous en reparlerons probablement tout à l'heure, existe une conception finalement très rectrice de l'État qui est chargée, dans un cadre républicain, de transmettre une sorte de foi laïque visant à unifier les comportements autour de la sécularité à la population qu'il régit. Deux modèles donc, le modèle de confessionnalité, et puis le modèle de séparation avec en son sein un modèle de séparation rigide qui correspond, au fond, à notre expérience depuis la Troisième République. Alors la question que se posent très souvent les observateurs sur ce modèle de laïcité porte, François Bouédec le signalait à l'instant, sur l'évolution de ce modèle de laïcité. Est-il, à travers le temps, depuis 1789, depuis 1880 ou 1905, resté semblable à lui-même? A-t-il reconduit systématiquement les mêmes modalités de fonctionnement? Alors sur cette question, il y a deux thèses qui s'opposent. Un certain nombre de chercheurs estiment qu'il faut plutôt défendre l'idée d'une pérennité du modèle français, que notre modèle serait encore, de manière quasi définitive, marqué par une culture de l'affrontement du religieux et du politique, avec toujours en son sein l'idée d'un État recteur qui viendrait, au fond, régir nos consciences en tentant de leur imposer une foi laïque. Première option. Mais il existe aussi une autre option dans le champ de l'histoire et de la sociologie de la laïcité. Cette seconde option repose sur l'idée, au contraire, d'une évolution de notre modèle de régulation de la croyance, de notre modèle d'articulation de la relation entre Église et État. Évolution de la laïcité dans le sens d'une plus grande reconnaissance, au fur et à mesure que les décennies se sont égrenées, de la dimension religieuse de nos existences. Alors je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, mais je serai extrêmement rapide évidemment sur cette remontée rétrospective, essayer de défendre ici la thèse de l'évolution et peut-être même la thèse de la rupture. Il me semble qu'on utilise toujours le même mot, le mot de laïcité, mais que ce mot de laïcité se trouve investi de significations variables à travers le temps. Il peut exister, bien sûr, des permanences du point de vue en particulier des lexiques, du point de vue même des comportements de certains de nos acteurs, lorsqu'on analyse la dimension proprement juridico-politique de notre système de laïcité, on voit bien qu'avec le temps, de nouvelles modalités de fonctionnement se sont progressivement mises en place. Alors comment analyser cette évolution du modèle laïque? Je crois qu'on peut repérer à travers le temps trois grands moments qui correspondent à trois grandes modalités de fonctionnement de la relation Église-État. Le premier moment est bien connu, c'est au fond un moment qui nous conduirait des années 1880 aux années 1950-1960. Nous sommes confrontés alors à ce qu'on pourrait appeler une laïcité de séparation. Une laïcité de séparation où l'État, bien sûr, ne méconnaît pas les Églises, mais refuse de les reconnaître. Ce modèle-là essaye de trancher avec le système antécédent qui était le système concordataire mis en place du temps de Napoléon Ier en 1801-1802. Un modèle concordataire qui reposait tout à la fois sur la reconnaissance de certains cultes, mais aussi sur un contrôle extrêmement sévère exercé par l'État sur l'activité cultuelle. Alors les républicains qui arrivent au pouvoir dans les années 1880 entendent se défaire de ce système d'association qui est aussi un système juridictionnaliste. Je le répète, les religions se trouvent placées ici sous le contrôle souvent absolu de l'État qui s'affirme dans sa souveraineté. Alors, que disent les républicains? Ils estiment que le système mis en place par Napoléon pose un double problème. Ils remettent en cause le principe d'égalité affirmé par la Révolution française. Ils remettent en cause aussi le principe de liberté. Affirmer le principe d'égalité, c'est donc le premier élément qui caractérise la pensée républicaine sur ce point. Ils estiment que le système concordataire, en reconnaissant quatre cultes et pas plus, le culte catholique, les deux cultes protestants réformés et luthériens et le culte juif, ignore finalement d'autres fois et surtout, ignore de la reconnaissance de l'État le développement de plus en plus net dans la France de l'époque de l'agnosticisme et de l'athéisme. Il faudrait donc, c'est en tout cas ce que nous disent les républicains, concevoir, si l'on est dans le cadre du système concordataire, la société française comme étant une société fondée d'abord sur la reconnaissance de la croyance et ignorant tout de la non-croyance. Mais s'ajoute à cela aussi une revendication de liberté. Nos acteurs estime que le système concordataire, tel qu'il a été pensé par Napoléon Ier, tel qu'il s'est développé tout au long du XIXe siècle, a permis en fait à l'Église catholique, en dépit de la rupture révolutionnaire, de revenir au cœur, au centre même, de la régulation de nos existences individuelles et collectives. Le problème ne serait pas si grave si l'Église catholique ne s'était, tout au long du XIXe siècle, raidit dans une position intransigeante dont le syllabus de 1864 rend parfaitement compte quand il rappelle que le pontife romain ne pourra jamais se réconcilier ni avec le progrès, ni avec la liberté, ni avec la civilisation moderne. Il faut donc rompre avec cette église-là qui est une église finalement qui n'a rien appris et rien oublier, pensent les Républicains, et qui veut figer la société française dans un modèle d'hétéronomie en tout point contraire aux impératifs de la subjectivité politique moderne. Ils décident donc de passer à l'action et d'édifier le social sur le seul principe de l'État fort, l'État moral et enseignant. Cet État moral et enseignant qui viendra substituer à la foi religieuse intransigeante une autre foi, la foi laïque. Alors, sur le fondement de cette philosophie politique, ils vont mettre en place dans les années 1880-1905 un dispositif juridique qui précisément vise à affirmer ce principe d'autonomie qu'ils souhaitent voir désormais s'incarner dans la société française. On en connaît les étapes. Les années 1880 sont plutôt consacrées à l'affirmation de la séparation de l'Église et de l'école. Et puis, les années 1900, largement consacrées à la séparation de l'Église et de l'État, avec la fameuse loi que vous connaissez les uns et les autres, la loi du 9 décembre 1905. Alors, on connaît la loi du 9 décembre 1905, on en ignore un peu le contenu. Dans le cadre d'un parcours aussi rapide que celui qui m'est demandé, je dirais que cette loi repose sur deux principes essentiels. Elle est d'abord une loi qui vise à affirmer, on l'oublie trop souvent, l'indépendance des Églises. C'est une loi de pacification de ce point de vue-là. Alors, indépendance des Églises, les choses peuvent sembler très curieuses. Il faut se souvenir que le modèle concordataire précédent est un modèle juridictionnaliste de contrôle de l'Église par l'État. Ce que fait Briand en proposant cette loi, loi qui sera très largement adoptée, c'est précisément d'affirmer la coupure du lien entre l'État et l'Église. Alors l'Église gagne dans cette histoire un certain nombre de prérogatives dont elle ne disposait pas auparavant. Première prérogative, la liberté de conscience se trouve affirmée et la liberté de culte garantie sous les seules restrictions de l'ordre public. On y reviendra probablement tout à l'heure dans le débat. Et puis surtout, article 4 de la loi de 1905, la République reconnaît la liberté d'organisation du culte à partir de ses propres principes de fonctionnement. Ce qui est, pour Briand, reconnaître le dispositif hiérarchique de l'Église. Le pape Pie X refusera de voir cet article 4, il est pourtant décisif. Il change totalement l'attitude que l'État français peut avoir vis-à-vis du culte, dans la mesure précisément où l'État français reconnaît désormais le dispositif hiérarchique d'une Église laissé à sa seule indépendance. Alors à côté de ce principe d'indépendance, il y a un autre principe que l'Église ne peut pas accepter dans l'imaginaire politique ou religieux ou théologique qui est le sien à cette époque-là. C'est le principe de privatisation. Les Églises jusqu'alors étaient reconnues par l'État. L'Église catholique recevait un rôle, une fonction d'officialité. Et surtout, l'Église catholique recevait des subsides, des subventions de la part de l'État, des subventions qui lui permettaient de vivre confortablement dans la société politique du temps. Tout cela disparaît avec la loi de 1905 et l'Église, qui se pensait très honnêtement comme un pôle de régulation nécessaire dans la société, se retrouve à n'être plus qu'une association privée sans plus d'importance que les autres associations privées qui se sont constituées à partir de 1901. Il y a donc une sorte de déclassement symbolique que Pie X évoque très rapidement. Il voit tout de suite le problème dans ses encycliques Vehementernos et Gravissimo de 1906, qui le conduira, bien sûr, à dénoncer cette loi de séparation comme étant inique, injuste, violente, une violence, dit-il, plutôt qu'une loi. Alors ce modèle, qui est un modèle fondé à la fois sur la privatisation du culte, mais en même temps sur la reconnaissance de sa liberté d'organisation, il y a les deux choses dans la loi de 1905, va demeurer jusqu'aux années 1950-1960. C'est souvent à partir de ce modèle-là que nous envisageons la laïcité française. On oublie de voir que depuis les années 1960, de grandes choses se sont produites sur le terrain de l'articulation de la relation entre l'Église et l'État. Et qu'en particulier, à partir des années 1960-1970, cette laïcité de séparation va bientôt se muer en laïcité de reconnaissance. Laïcité de reconnaissance, dont il faudrait ici probablement essayer de percevoir les origines. Le droit, Durkheim nous l'a bien dit dès la fin du XIXe siècle, n'est jamais totalement un système autonome. Il est travaillé par les évolutions de la morphologie sociale. Et l'on voit bien que les années 1960-1970 dessinent une société qui n'a plus rien à voir avec la société des années 1880-1890. Le droit va s'en ressentir. Alors que se passe-t-il dans ces années 1960-1970? Il se passe d'abord que l'Église évolue considérablement. Les choses avaient déjà été annoncées dans les années 1920. On se souvient en particulier de la condamnation de l'Action française, qui avait rompu le lien entre l'Église et le légitimisme politique. Rupture du lien qui avait permis déjà, dans les années 30, les premières ouvertures de la laïcité. Mais les choses vont être plus nettes encore dans les années 1940-1945, acceptation par l'épiscopat du principe de laïcité sous certaines conditions, et puis surtout, le Concile Vatican II, qui, avec des textes comme Gaudium et Spes, renvoie finalement la religion catholique à une sorte d'accommodement, parfois même à une adhésion, avec les grands principes de la philosophie moderne. Je pense ici en particulier au principe de liberté de conscience que l'Église jusqu'alors dénonçait avec tant de force. Cela ouvre évidemment des perspectives d'évolution du côté de l'État laïque, qui se dit qu'avec cette Église, finalement, des coopérations sont possibles, qui ne l'étaient pas du temps où l'Église campait dans une intransigeance radicale vis-à-vis de la civilisation moderne. Ce serait un premier point qu'il faudrait examiner, mais d'autres sont plus nécessaires encore. La société évolue dans sa conception de l'égalité. Lorsqu'on prend les conceptions de l'égalité dans les années 1890-1900, on a affaire à une égalité qui fonctionne beaucoup sur le mode de l'indifférenciation. On saisit les êtres à partir de ceux qui les rassemblent, bien davantage qu'à partir de ceux qui les différencient. Or, sous l'effet tout à la fois d'un courant néo-proudhonien, dont Paul Ricoeur pourrait par exemple être l'illustration, sous l'effet aussi d'un courant individualiste, qui affirme la primauté de la subjectivité, de l'individualité par rapport à la citoyenneté lourde, on voit se mettre en place dans ces années-là, dans les années 1960-1970, une autre conception de l'égalité. On estime désormais qu'il faut saisir les êtres dans leurs différences et que c'est en respectant leurs différences qu'on pourra faire droit précisément au principe d'égalité. Alors il faudrait ajouter que dans ces années-là se met en place aussi une autre conception de l'État. L'État républicain, celui qui germe dans les années 1880, est un État lourd, un État fort, normatif, qui impose sa règle d'en haut et de manière pyramidale. À partir des années 1970-1980, toutes les enquêtes de sciences administratives ou de sciences politiques convergent sur ce point, on voit bien apparaître une autre conception de l'État, un État plus négociateur, plus régulateur, davantage pluraliste et qui s'ouvre du coup bien davantage, bien plus qu'hier, aux forces de la société civile. Un état de la négociation qui va être amené à négocier aussi avec les acteurs religieux et qui lui ouvre tout à la fois des potentialités d'intégration renouvelées et des potentialités de signification également inédites. Alors sur ce fondement, transformation de nos imaginaires sociaux et politiques se met en place. Dans cette époque-là, une autre conception de la laïcité, bien davantage ouverte que par le passé, à la dimension religieuse de nos existences. Alors il faudrait sur ce point reprendre la question de l'articulation entre l'Église et l'école, par exemple, et énoncer l'ensemble des lois qui, tout au long de la Ve République, sous des gouvernements de droite aussi bien que sous des gouvernements de gauche, se sont accumulées pour ouvrir des potentialités totalement inédites au développement de l'école privée. Loi Debré, 1959. Loi Germer, 1977. On pourrait y ajouter la loi Rocard, de 1984. Les accords Lang-Cloupet, 1992. La loi Carl, 2007. Et toutes ces lois vont dans le même sens. L'idée d'une reconnaissance par l'État, d'un enseignement privé dont on se demandait, au début du siècle, s'il devait encore persévérer dans l'être. J'ajouterais que l'école publique elle-même s'est ouverte à la dimension de la différence religieuse. Il faudrait ici reprendre l'ensemble des circulaires, retenons-en une simplement. Dans les années 1990, renforcée encore dans les années 2000, l'ouverture des programmes de l'école à l'enseignement du fait religieux. Enseignement du fait religieux qui n'est pas simplement pensé à partir de sa valence académique, mais aussi à partir de sa valence sociale, comme un enseignement susceptible d'accroître les tolérances dans une société désormais marquée par le pluralisme religieux. Alors, évidemment, il faudrait aussi, si nous en avions le temps, reprendre la question de l'articulation entre l'Église et l'État. Et l'on verrait que sur ce terrain aussi, des choses ont profondément changé et que cette Église, constituée du côté de la sphère privée de nos existences collectives, a fait retour à l'intérieur même de l'espace public. Un premier point nous est indiqué par la question des financements, en particulier de l'Église. Et l'on montrerait en étudiant le droit fiscal que la laïcité fiscale a subi au cours de ces dernières années de grandes entorses. Il suffit de ce point de vue de lire simplement dans le Code général des impôts l'article 200 sur lequel nous reviendrons peut-être. Et puis surtout, s'est mise en place une sorte de néo-corporatisme réflexif, dont est témoin aujourd'hui l'organisation même du Comité consultatif national d'éthique. Il se trouve qu'en 1983, affolé par le déraillement probable ou possible de la science, François Mitterrand porte sur les fonts baptismaux, c'est le premier en Europe, ce comité d'éthique, qui est l'un des foyers de production de la norme juridique sur ces questions aujourd'hui en France. Eh bien, dans ce comité national d'éthique, il insistera pour qu'on y insère des représentants des forces religieuses et convictionnelles. Et il le fait, il le dit à plusieurs reprises, parce qu'il s'agit d'articuler la logique du nombre avec la logique de la sagesse. Logique de la sagesse, reconnaissance que dans le débat public argumenté, il y a besoin parfois de forces qui, à partir d'un principe de gratuité, sont susceptibles d'alimenter le débat public. Alors, j'en ai presque terminé en vous disant que cette politique de la reconnaissance, qui se met en place sur le fondement des transformations d'imaginaire que je viens d'évoquer, a subi, au cours de ces toutes dernières années, elle aussi, une évolution. Et que, à partir des années 2000, se dessinent d'autres conduites, d'autres modalités d'articulation de la relation entre l'Église et l'État. Il faut dire que la société a changé et qu'elle est marquée tout à la fois par une transformation de son champ religieux et une transformation de son champ politique. La transformation du champ religieux, vous la connaissez. La montée en puissance d'un islam visible qui a vu ceux que nous considérions jadis comme des immigrés prendre l'allure de musulmans, pour parler comme Olivier Roy. Et cela n'a pas été sans remettre en cause les distributions ordinaires ou naturelles que nous pouvions avoir de la relation entre le religieux et la société. Et puis il y a eu aussi une évolution très importante de notre champ politique, marquée par le retour de deux forces oubliées dans les années de la modernité triomphante, les années 60-70. La force d'une part du néo-populisme, la force d'autre part du néo-républicanisme, qui ensemble ont profondément modifié notre façon aussi d'envisager la laïcité. Alors sur la transformation de ce contexte social à partir duquel on peut penser les transformations du droit, on a vu se mettre en place de nouvelles régulations. Ce que j'appellerais, après la laïcité de séparation et après la laïcité de reconnaissance, la laïcité d'intégration, où on intègre au fond deux dimensions. La première dimension, c'est qu'on ne remet pas en cause, même le gouvernement socialiste actuel, qui a rompu pour une grande part avec l'anticléricalisme juridique de ses origines, on ne remet pas en cause les reconnaissances établies. Et l'on voit que sur le terrain de l'interaction réflexive entre l'État et les Églises, sur le terrain aussi du financement des cultes, Il n'est guère de projet qui viendrait aujourd'hui remettre en cause les équilibres trouvés dans les années 1960-1970. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, tout simplement ceci, c'est qu'à côté des reconnaissances qui demeurent, qui perdurent, se sont mises en place par toute une série de textes au cours des années 2000-2010, de nouvelles surveillances, de nouveaux contrôles des cultes sur un mode qu'on pourrait dire volontiers néo-gallican, néo-juridictionnaliste. Il faudrait mettre en place évidemment une analyse ici des interdits qui ont été posés. Je pense à la loi de 2004 concernant les signes religieux dans l'espace scolaire public. Je pense à la loi de 2011 à laquelle on a prêté trop peu d'attention alors qu'elle était extrêmement importante du point de vue juridique sur la dissimulation du visage dans l'espace public. Probablement faudra-t-il revenir sur ce point car la notion d'espace public qui avait été posée dans sa théoricité par les républicains dans les années 1880-1905 a subi, à l'occasion du vote de cette loi, une extension ou une restriction, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui remet en cause la laïcité des origines et qui permet à l'État, en effet, d'accroître sa surveillance sur les cultes ou sur les appartenances religieuses. Et puis un dernier point, à côté des interdits, se mettent en place aussi de nouvelles prescriptions autour de l'invention ou de la réinvention, dans la ligne de Ferdinand Buisson, de ses cours de morale laïque qui visent finalement à essayer de rassembler les sociétés autour d'une nouvelle cohérence idéologique, autour d'une nouvelle cohésion, autour de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle foi laïque qui, cependant, ne vise pas à se substituer aux valeurs religieuses, comme le dit le ministre Vincent Payon. Valeurs communes pour réinstaurer, dans une société marquée tout à la fois par le mouvement et l'incertitude, une cohérence d'existence permettant au vivre ensemble de se réassurer. Mon dernier mot sera pour dire que ce modèle d'intégration n'est pas simplement une spécificité française, mais qu'il caractérise aussi de très nombreux États européens avec lesquels nous sommes aujourd'hui en situation de voisinage et de coopération. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Philippe, de ce rappel historique, je crois, très éclairant, qui nous a permis de bien prendre la mesure de la singularité française en matière de laïcité, cette singularité française qui, nous l'avons bien compris, a évolué depuis la Révolution, passant d'une laïcité de séparation à une laïcité de reconnaissance jusqu'à la laïcité d'intégration dans laquelle nous serions aujourd'hui. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir très largement sur ces différents points et sur cette laïcité d'intégration dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Sans plus attendre, je laisse la parole à Guy Coq qui ne reviendra peut-être pas tant sur l'histoire mais qui essaiera aussi de donner quelques pistes pour l'avenir.
Bonjour à tous, bonsoir. Il est difficile de après une telle fresque d'intervenir, donc je vous demanderai un peu d'indulgence sur certaines hésitations. Je partirai surtout des débats contemporains et il est un fait que, et ce n'est pas contradictoire avec les étapes de cette évolution qui vient d'être tracée, on observe qu'il y a au fond de nouveau un débat ces dernières années, depuis les années 2000, autour des fondamentaux, autour notamment donc de cette fameuse loi de 1905. Faut-il la relativiser? Faut-il la constitutionnaliser? Le cœur du débat, ce sont les articles, les deux premiers articles. Parce que pour l'article, et encore pour l'article 1, il est largement admis, la République assure la liberté des consciences, elle garantit le libre exercice des cultes, tout ça se confirme, la grande synthèse que nous avons entendue, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt public. Mais alors, il y a un problème, c'est l'article 2. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Et cependant, alors dès ce moment-là, dès le vote de cette loi, La loi de 1905 fait un cadeau formidable à l'Église catholique parce que ces bâtiments du culte, ces cathédrales, toutes ces églises, ces vieilles églises dont l'Église avait été spoliée, avait perdu la propriété après à la Révolution, voilà qu'ils lui sont confiés. La loi les confie pratiquement à l'Église catholique et lui promet de bien les entretenir. Situation quand même étrange pour une loi qui passe pour anti-religieuse dans certaines lectures. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est le côté intéressant de cette loi. À la fois d'un côté, un principe qui peut paraître bizarre, mais de l'autre côté, une sorte d'ouverture historique et ça va continuer parce que il va y avoir des ajustements et il y a en particulier l'article 19 qui dès 42 mais ça va passer à la libération ça va être admis à la libération par De Gaulle en fait et on lit ce passage dans cet article 19. Les associations cultuelles, donc, qui doivent s'occuper de gérer les religions, ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes. Bon, très bien, ça, c'est le rappel. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparation aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. Ajoutons que la loi de finances en 1961, les lois de finances ont permis beaucoup de choses dans l'ajustement de la laïcité. Les départements et les communes peuvent donner leur garantie pour les emprunts que nécessite la construction des édifices voués au culte. Et puis entre deux, je ne vais pas trop insister sur ce côté historique, mais il y a la fameuse installation des baux amphithéotiques qui permet aux collectivités locales de pratiquement donner la disposition pour la construction des églises ou des temples ou des mosquées, des terrains pour un loyer symbolique, bail de 99 ans, et au terme de 99 ans, le bâtiment entre dans les biens de la commune, donc évidemment à la charge de la commune. Et puis alors, il y a ce nouveau, dans une période plus récente, mais ça, moi j'avais pris un côté plus juridique, mais ça correspond à la troisième période, grosso modo, de Philippe Portier, qui est très clair, c'est qu'on joue sur la différence ou l'articulation ou la souplesse de frontière entre le cultuel et le culturel. Par exemple, en juillet 2011, le Conseil d'État a produit 5 arrêts. Et alors, c'est très intéressant. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, puisqu'il ne faut pas faire que de l'histoire. Mais alors, par exemple, premier cas, c'est une commune qui a acquis un orgue qu'elle a installé dans l'église. L'église n'en avait pas. Et cet orgue va servir, bien sûr, aux célébrations, mais d'un autre côté, il sert aussi pour les concerts, pour la commune, etc. Alors, cette situation avait été attaquée devant toutes les jurisprudences. Le Conseil d'État a dit « pas de problème ». Pas de problème, il y a un intérêt public local qui est pris en compte et il n'y a pas du tout à faire d'objection. Au Mans, on avait créé un abattoir qui servirait essentiellement pendant la fête de l'Aïd. Et là aussi, l'intérêt public local a dit, Conseil d'État dixit, qu'il fallait que les rituels soient conformes aux impératifs d'ordre public, donc la salubrité et la santé. Donc du coup, c'était logique de mettre cet abattoir. Je vais prendre, c'est très curieux, un ou deux autres exemples. À Montpellier, une salle appartenant à la commune pour exercice d'un culte. Il n'y a pas de problème, dit le Conseil d'État, mais il faut un loyer, là il faut un loyer. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que à travers le siècle d'application de la loi de 1905, elle a en effet traversé les trois étapes que signalait Philippe Portier, et elle est objet... la jurisprudence apparaît, conforme d'ailleurs à ce que voulait Jaurès et Briand, j'en suis tout à fait conscient, une jurisprudence souple, et voilà. Alors, ceci dit, au début du XXe siècle, Certes, il y a ce que décrivait fort bien mon prédécesseur, mais il y a aussi des velléités de remettre en cause la loi de 1905, de la réécrire, de la toiletter, surtout à la veille de son 100e anniversaire. C'était une centenaire qu'il fallait un peu secouer, disons. Alors, certains voulaient au fond un peu la relativiser. Et puis, depuis maintenant 2 ans, c'est l'autre tendance qui s'est affirmée. Vous voyez, ce balancement, il faudrait la constitutionnaliser. C'est ce qu'on a vu apparaître l'an passé dans le programme, de la gauche. Mais alors, en 2003, autour de la campagne, de l'approche du centenaire, c'était l'UMP, M. Raffarin, M. Copé et même M. Valls au PS qui voulaient que vraiment cette loi de 1905, on la toilette. Finalement, le président Chirac avait dit non, on ne touchera pas à cette loi, précédé en ça d'ailleurs par l'Église catholique qui, dès 2003, avait dit « Mais nous ne demandons rien, la loi de 1905 nous convient tout à fait telle qu'elle est appliquée ». Alors, elle n'était pas demandeuse de quoi que ce soit. Mais le camp révisionniste, en quelque sorte, alors en octobre 2005, se trouve doté de ce qu'on a appelé le rapport Machelon, qui, lui, préconise de changer l'article 19, justement, et d'étendre cette souplesse de financement des réparations carrément au financement de lieux de culte. Bon, il est sans suite. Mais alors, et je pense quand même que c'est cette tendance de la précédente majorité, peut-être à toucher à la loi 1905, qui a fait que dans la nouvelle administration qui se préparait et qui a gagné les élections, on s'est dit qu'il fallait essayer d'inscrire la loi de 1905 dans le marbre, donc en la constitutionnalisant. Alors là, patatras, car... comment constitutionnaliser cette loi? En réalité, on voulait constitutionnaliser les articles 1 et 2. Et François Hollande, dans son catalogue de promesses, proposition 46, je proposerai d'inscrire les principes fondamentaux de la loi de 1905 sur la laïcité dans la Constitution en insérant à l'article 1er un deuxième alinéa ainsi rédigé. La République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et respecte la séparation des Églises et de l'État, conformément au titre premier de la loi de 1905, sous réserve des règles s'appliquant, des règles particulières applicables en Alsace et en Moselle. Alors là, ça a fait la panique, parce que les gens qui voulaient le durcissement, au fond, parce qu'on peut se demander quelles auraient été les conséquences ou quelles seraient les conséquences d'une mise dans la Constitution de ces lois de 1905, de deux de ces articles, alors que c'est l'ensemble du dispositif qui est relativement souple et ouvert à toutes sortes de choses. Mais alors les mêmes, au fond, qui peut-être espéraient ce durcissement, on inscrit dans le marbre qu'il n'y a pas de financement possible dans le marbre de la Constitution, oui, mais alors, en même temps, on a l'air de constitutionnaliser le statut spécial de l'Alsace-Moselle. Alors là, c'est la catastrophe, et on ne sait plus où l'on en est. Alors, bon, maintenant, voilà pour ça. Le deuxième pilier, c'est l'école républicaine. Alors, c'est... Je ne reviens pas sur l'histoire qu'a bien faite M. Portier, mais cette école républicaine, en effet, elle a deux choses très très importantes. C'est d'une part la morale est un des grands points du programme, et d'autre part l'importance de la fonction politique, elle a pour fonction d'installer la République. Installer la République contre l'autre France qui était anti-républicaine et en même temps c'était l'Église. Donc la guerre des deux France, elle est située là-dedans. Alors, on peut dire que, la société individualiste qui s'est développée en effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand même, notamment à partir des années 60, j'en suis bien d'accord, ébranlait beaucoup les institutions. Et pour moi qui observe la question de l'école, je m'aperçois que c'est une période, au fond, de désinstitutionnalisation de l'école, perte du respect de l'autorité, interventionnisme de l'opinion publique pour accuser, mettre en accusation l'école, voire de ministres qui mettent en accusation les enseignants devant les problèmes que rencontre l'école et qui sont des problèmes sociaux très, très redoutables. Comment mettre un peu plus d'égalité dans la société? La pauvre école est quand même qu'une partie du problème. Alors, diverses institutions, ça s'est accentué après 68 et dans les années 80. Et il y a eu, en effet, on a raté à ce moment-là la première, au fond, rencontre de l'islam, public de l'islam, cette nouvelle religion, au fond, demandant son inscription dans l'espace de l'école. En fait, au lieu de lui donner tout de suite l'inscription dans l'espace public que le Conseil français du culte musulman va lui donner un peu plus tard, au fond, on la laisse s'enferrer, en quelque sorte, pendant des années dans cette histoire, parce que l'espace de l'école n'est pas l'espace public ouvert à tous, c'est un espace institutionnel qui avait ses traditions. Et alors, il y a cette fameuse querelle. Moi, je crois que la loi de 2004, qui a d'ailleurs n'a pas fait de problème depuis lors, il n'y a pas de problème dans l'école sur ce sujet. La question, cette loi est appliquée, et d'ailleurs, les courants islam de musulmans, je pense au président de l'UAIF, qui est actuellement vice-président du CFCM, qui avait dit d'ailleurs, si c'est la loi, nous l'appliquerons. Et de fait, il devait y avoir un rapport tous les ans. Il y a eu un seul rapport pour l'application de la loi, après il n'y a plus. Elle est respectée. Mais tout n'est pas simple quand même, parce qu'il y a eu ce qu'un livre appelle les territoires perdus de la République. Et dans l'école, c'est vrai, il y a une difficulté, au fond, de faire respecter d'une certaine manière à la fois l'idée républicaine et la laïcité. Alors c'est vrai que dans une dernière période, à partir des années 80, du début des années 80, le gouvernement socialiste et en particulier la Ligue de l'enseignement pose le principe qu'il n'est pas normal que les enfants dans les écoles ignorent les religions et donc annonce que l'on va ouvrir l'école à un enseignement sur les religions. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a eu le rapport Joutard, il y a eu aussi le rapport Debray beaucoup plus tard. Et c'est un problème aujourd'hui que je trouve abandonné. Abandonné, les derniers ministres ne se sont pas du tout occupés de ce problème, de mettre à jour quand même, parce qu'on a fait des choses, mais ça ne suffit pas. En particulier, on n'en a pas fait suffisamment pour que les enseignants soient prêts à assumer cela. Et la prise en compte du sujet a été très inégale selon les disciplines, assez bien faite du côté de l'histoire, assez médiocrement appliquée du côté de l'enseignement littéraire. Et puis alors, effectivement, et j'ai été de ceux qui, il y a cinq ans déjà, à Confrontation, qui est un groupe d'intellectuels chrétiens, et puis à la Ligue de l'enseignement, commencions à réfléchir sur cette idée que les valeurs de la République, c'est très bien, les valeurs communes, c'est très bien, mais enfin, il serait peut-être bien quand même qu'il y ait une réflexion, une culture éthique qui se développe à l'intérieur de l'école, que peut-être, sans revenir à Jules Ferry, dont l'éducation morale d'ailleurs était bien meilleure que ce que nous pensons d'habitude, Jean Boébéro l'a fort bien montré dans son livre sur la morale laïque contre l'ordre moral, mais voilà, il y a ce problème qui est posé, et de fait, alors, le nouveau ministre s'en est emparé, mais ce n'est pas le premier. Il faut rappeler qu'un an auparavant, Luc Chatel et son directeur des écoles avaient fait une circulaire que le débat sur la morale à l'école avait commencé avant l'arrivée de Vincent Peillon, qui maintenant, effectivement, s'en est emparé. Alors, il y a une question quand même, parce que si l'école doit transmettre, il faut qu'elle sache un peu quelle société elle transmet. Et si la société ne sait plus qui elle est, Que peut faire l'école? Voilà la question, elle est immense. Mon troisième temps, c'était de reprendre la question des religions dans la laïcité. Alors c'est vrai, la question pour l'Église a été à travers différents textes, et il y a même en 2005 un texte de Jean-Paul II qui dit que le principe de laïcité auquel votre pays est très attaché, s'il est bien compris, appartient aussi à la doctrine sociale de l'Église. Alors, gay, allons-y. La laïcité fait partie de la doctrine sociale de l'Église, et moi je m'en réjouis, mais en plus, il faudrait dire que il y a donc aussi les prises de position à ce moment-là, pas de demande de côté de l'Église catholique de changement des textes. Alors, il reste que le problème pour l'Église est le suivant, c'est qu'à travers l'histoire qui nous a été rappelée, l'Église, on est sorti de la religion, en quelque sorte, pour prendre la formule de Marcel Gauchet, reprise d'ailleurs par Marcel Gauchet, pour traduire cette histoire. Et dans notre horizon historique, il y a un problème nouveau qui émerge. L'inscription de l'Église dans la société démocratique ne peut plus être celle qu'il y avait dans la société, disons, d'inséparation de l'Église et de l'État. D'une part. Et d'autre part, donc, il faut inventer une inscription nouvelle. Inscription nouvelle, comment faire? Alors, je voudrais signaler, parce que dans le débat actuel, il y a eu tout un débat sur les prises de position de l'Église catholique, toutes ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Si je vais chercher des auteurs qui ne sont pas suspects de trop fréquenter les bénitiers, je pense à Marcel Gauchet et à Jürgen Habermas, l'allemand, eh bien, pour eux, c'est un fait. Cette société sécularisée, je me sers d'abord un peu des positions de Marcel Gauchet, Gauchet va jusqu'à dire que dans ces sociétés où la question des fins ultimes ne peut plus avoir que des réponses individuelles, les religions retrouvent un statut éminent pour proposer du sens, et qu'elles sont indispensables pour cela. Vis-à-vis de la conscience sociale, elles redeviennent une possibilité, je le cite, à côté d'autres. Et cette légitimité, évidemment, n'est possible que dans le cadre sécularisé. C'est la conséquence de l'abandon du pouvoir et de la domination de la société par les religions qui fait que maintenant, on peut s'entendre sur ce point. Cette situation impose de reconnaître l'opinion religieuse comme une possibilité légitime. Dit Gauchet, il est requis, du point de vue laïque, de penser que l'on puisse être religieux, que c'est parfaitement légitime, que ce n'est pas ringard du tout, que c'est normal, c'est une possibilité, continue-t-il, que l'athéisme lui-même se doit d'intégrer, appelle aux athées. On discute ensemble, on fait société ensemble, on se respecte, mais il vous appartient, si nous nous exprimons, et nous en avons le droit de ne pas nous mépriser. De même que nous n'allons pas vous mépriser. D'ailleurs, nous reconnaissons votre droit d'avoir les positions que vous avez. Il faut dépasser le plan individuel, explique Gauchet. Et si les fins ne se déterminent pas au niveau commun, il faut reconnaître l'importance des choix collectifs. Et alors, c'est les gouvernements ont des choix collectifs qui touchent à des finalités importantes. On le voit très bien avec les problèmes d'éthique, de bioéthique, etc. Du coup, les institutions religieuses sont légitimes pour se faire entendre dans l'élaboration des choix collectifs et d'y peser. Elles ont le droit d'y peser. Mais il y a une condition, qu'elles reconnaissent les implications de l'exigence pluraliste. Autrement dit, qu'elles acceptent les conditions du débat démocratique, qu'elles ne prétendent pas, elles non plus, mépriser les positions des autres et croire qu'elles peuvent toutes seules à répondre à tout. Si elles veulent être entendues, il importe donc qu'elles sachent traduire des propositions inspirées de la foi dans un langage non religieux. Et il finit, je cite encore Gauchet, « La démocratie parvenue à une neutralité complète a besoin d'une sphère publique, d'une scène publique des doctrines ultimes. » Une scène publique des doctrines ultimes où elles peuvent débattre. Et Jürgen Habermas va dans le même sens, mais je n'insisterai pas pour l'instant. Sur la question des musulmans, je voulais dire deux mots aussi, parce que, il se passe la chose suivante, c'est que les musulmans eux-mêmes ont beaucoup bougé. Des chiffres récents disent que 42% se disent français avant d'être musulmans, 74% ne voient pas de contradiction entre le fait d'être musulman et de vivre dans la société française, 70% disent adopter les manières de vivre du pays. Bref, il y a une ouverture de la masse de la population musulmane, parce que ces chiffres que je donne, si on voit en Allemagne ou en Grande-Bretagne, je n'ai pas le temps de les donner maintenant, mais c'est très différent, c'est beaucoup plus petit, la DAS. Il y a en effet donc des Américains, je crois, ont fait des études disant que finalement l'islam en France est assez bien intégré. Oui, mais alors, il y a un problème, c'est que l'opinion française, elle, 21% admettent que la religion musulmane pourrait être tolérante des Français, 21%. Et 74% estiment que la religion musulmane n'est pas compatible avec les valeurs de la société française. Il y a un hiatus, et ça fait un très gros problème. J'ai un dernier point à annoncer, c'est que la question qui se pose, donc après ce troisième point sur les religions dans la laïcité, très, très, très grossièrement traité, je le reconnais. Quatrième point, y a-t-il des limites à la sécularisation ? Y a-t-il des limites à la sécularisation ? C'est qu'au stade où l'on en est, la question se pose quand même. Notez bien qu'il faut faire une différence entre sécularisation et laïcité. La laïcité, ce sont des principes, c'est des principes de droit, des principes d'institution politique. On les applique ou on ne les applique pas. La sécularisation, c'est un mouvement multiséculaire de recul des religions, de leur influence dans la civilisation, etc. C'est un mouvement de grande importance, mais de longue durée. Alors, peut-on, dans la société sécularisée, dire, voilà, les religions, c'est fini, il faut liquider tout ça, on n'en a plus besoin. Alors, je vais faire 3 ou 4 remarques très, très rapidement, qui pourraient être développées. D'ailleurs, nous les avions développées dans un colloque dont je participais à l'organisation de l'Observatoire Foi et Culture près de la conférence des évêques, sur le thème « Y a-t-il un christianisme culturel ?». Alors la première chose, c'est que une mémoire de la religion traditionnelle et de l'histoire religieuse de la France sont absolument nécessaires si on souhaite garder l'intelligence de notre héritage culturel, ou si l'on veut comprendre notre passé commun. Et ça, c'est, il y a quelques semaines, une historienne bien connue pour son agnosticisme, Blandine Kriegel, qui nous le disait dans un autre colloque. Première idée. Alors, mais que fait-on pour que ça se passe ainsi ? Parce qu'il y a une ignorance crasse, et notamment, dans l'université, ça ne va pas très bien. Bon, remarquez, ça ne va pas très bien ailleurs non plus. Ça ne va pas non plus très bien dans l'Église, parce que l'Église ne prend pas non plus sa part de responsabilité sur ce sujet. Deuxième idée, le problème ne se pose pas uniquement pour le passé, mais pour la situation actuelle. D'abord, évidemment, parce qu'elle ne peut pas se comprendre, cette situation elle-même, sans la durée. Elle n'est pas une simple actualité. Donc, s'il n'y a pas de rapport, disons, sain au passé, eh bien, on ne se comprend pas. De plus, beaucoup d'éléments de la culture commune portent des traces de la religion traditionnelle, mais des traces sécularisées. Noël est une fête qui appartient à tout le monde. Il y a plusieurs couches de signification dans Noël, mais la trace du nom est aussi une trace de notre mémoire. Et je dirais, du point de vue d'une saine laïcité, pour parler comme quelqu'un, il est absolument anormal pour les fêtes de fin d'année de vouloir gommer Noël. C'est ridicule, qu'est-ce qu'on fête ? Les bonnes fêtes au pluriel que l'on voit partout fleurir dans nos communes, ça veut dire quoi ? Non, Noël, c'est laïcisé. Mais attention, ça ne veut pas dire... Je me rallie à une sociologue, mais je ne pourrais pas prendre l'exemple maintenant, qui dit une journée fériée propre aux différentes religions reviendrait en fait à redonner au calendrier issu de la chrétienté un caractère sacré, donc à revenir en arrière de la sécularisation. Donc il faut affirmer, ce sont des traces sécularisées d'une influence des religions et pourquoi, pourquoi se battre contre ces traces, alors que ça va déstructurer les mémoires. Donc, on ne peut pas gommer l'histoire religieuse, y compris religieuse, donc dans notre aujourd'hui. Je voulais citer, le grand rabbin Bernheim, qui, d'ailleurs, sur ce point, donc, nous dit... Il y a une sphère publique façonnée par l'histoire politique, économique, culturelle et religieuse dans chaque pays, et on ne peut pas gommer tout cela au nom d'un universalisme. Et puis, il cite, le pasteur Bernheim, il cite un grand ponte de la théorie du droit de la laïcité, qui est le monsieur Rivero. Qui est Jean Rivero, qui dit « Les mœurs, même coupées de leurs racines religieuses, ont prévalu sur la logique intégrale de la séparation. Par là s'explique aussi le fait qu'en dépit de l'égalité de principe entre toutes les religions, l'État entretienne avec les cultes traditionnels des rapports plus suivis qu'avec les autres cultes. 2000 ans d'influence d'un culte, ça pèse. 1500 ans d'influence de l'islam, en Afrique du Nord, ça pèsera de toute façon, et c'est pareil pour tout le monde. Alors, vous voyez, ça, il faudrait aussi voir un dernier point, que la sortie de la religion est peut-être jamais achevable, jamais achevable. Et c'est là-dessus quelque chose qui est assez, qui a été traité par des philosophes, je ne les citerai pas, mais quand même, il y en a une qui est très connue, et son intervention, je cite ces cinq lignes, son intervention a fait du bruit dans l'Anderneau parisien. Le génie du christianisme a introduit et continue de diffuser des innovations dont nous n'avons pas fini de mesurer la portée révélatrice et en un sens révolutionnaire que les chrétiens eux-mêmes ne se risquent ni à reconnaître ni à faire reconnaître comme différence chrétienne dans l'heure des religions en cours. Autrement dit, Julia Kristeva, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, reproche aux chrétiens de ne pas bien connaître l'originalité de leur christianisme. Merci à elle.
Merci Guy Coq de cette parole engagée. Merci de nous avoir montré sur un certain nombre de dossiers les évolutions de la laïcité à travers le débat sur les fondamentaux, notamment la loi de 1905, faut-il la relativiser ou la constitutionnaliser, la question du dossier de l'école républicaine, quelle place aux religions, à l'enseignement des religions, quelle place à la morale laïque. Tout cela touche évidemment à la place des religions dans la laïcité, la religion comme un élément légitime, on a bien senti que c'était votre souhait, pour intervenir dans l'élaboration des choix politiques à condition qu'elles acceptent le débat démocratique. Et vous nous laissez sur cette question, y a-t-il des limites à la sécularisation? Je crois que nous avons bien compris votre point de vue. Il n'est doute que vos propos vont alimenter largement le débat que je vous propose d'ouvrir maintenant, comme nous en avons l'habitude. Je vous propose de prendre 2-3 questions, réflexions, si possible assez courtes, pour permettre de faire circuler la parole le plus possible. Et après ces 2-3-4 premières interventions, nous redonnerons la parole à nos intervenants de ce soir. Alors, si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à lever la main. On va commencer devant. Je crois que c'est même une question qui nous vient de Bordeaux.
Voilà, alors la question qui a été choisie par l'Assemblée de Bordeaux, il y aurait une question sur un éclaircissement sur l'article 200 du Code fiscal, de quoi s'agit-il? Et puis surtout, la question principale, l'arrivée dans le champ public d'un islam reconnu comme une des grandes religions en France pourrait-elle modifier ce que vous appelez la laïcité d'intégration? Donc la question s'adresse à M. Portier. Je répète.
Oui, la première, tout début, ce qu'on n'a pas bien entendu.
L'article 200 du Code fiscal.
L'article 200 du Code fiscal. Voilà. Et puis l'islam, merci. Et la laïcité d'intégration.
Voilà.
Très bien, merci beaucoup. On va prendre d'autres questions et interventions. Voilà, alors on va aller tout au fond. C'est toujours un exercice de sport pour le porteur de micro.
Bonsoir. Deux questions. Est-ce qu'il y a urgence? Première question. Et deuxièmement, comment l'Église travaille vraiment le sujet au-delà de ce soir? Sur la question de l'urgence, après tout, la Tunisie, l'Égypte, grâce au modèle laïque d'essence chrétienne, évolue vers la démocratie. Donc ça vient tout seul. Donc on n'est pas pressé. Ou bien inversement, il y a des grandes violences en Syrie. Il y a la question du Proche-Orient. Donc, est-ce qu'il y a urgence? Et d'autre part, sur la doctrine, que pense l'Église sur, par exemple, le programme socialiste actuel, modèle 1905, modèle concordat mosello-alsacien? Est-ce que l'Église a une préférence? Parce qu'il semble qu'elle bouge, elle aussi, sur ce sujet-là. Et par ailleurs, l'œcuménisme, parce que pour être audible dans le monde, être audible auprès de l'État, est-ce qu'il y a des points où, au-delà de Vatican II, il y a encore des questions de fond autour du statut de la femme dans l'Église, dans la famille, autour de la justification à nature
voilà,
humaine.
C'est plusieurs sujets pour les prochaines soirées d'éthique. Merci. Alors, une autre question tout au fond. Là, levez bien la main, voilà, pour qu'on vous voit. Merci.
Dans quelle mesure la mondialisation, avec ses intérêts économiques et politiques, peut remettre en question la laïcité? Par exemple, une grande entreprise française a accueilli pendant un an et demi dans ses locaux une petite équipe de son client qatari. Et ce client a bénéficié d'une salle de prière réservée aux musulmans pendant ce temps-là.
Merci beaucoup pour cette question. On peut peut-être en rester là. Je crois qu'il y a déjà matière à aborder beaucoup de sujets. Je ne sais pas par quoi vous souhaitez commencer. Philippe, autour de l'urgence de la laïcité, peut-être les questions qui ont été posées par monsieur, peut-être est-ce que c'est vraiment indispensable d'avancer vers un modèle de laïcité par rapport, on y vient tout simplement, si on voit d'autres évolutions dans le monde. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez être le porteur de la parole de l'Église pour dire que pense l'Église sur le modèle de laïcité. Je ne veux pas vous investir de...
Voilà. Non, ce sera... Est-ce que je peux répondre très rapidement à la question sur l'article 200? Parce que c'est une question vraiment factuelle que nous connaissons tous les uns et les autres. Il suffit de regarder nos déclarations d'impôts. Cet article 200 du Code général des impôts prévoit qu'on puisse déduire de nos impôts, et pas simplement de notre matière imposable, 60% des sommes que nous versons ou à des associations caritatives ou à des associations cultuelles relevant de l'Église catholique. Donc c'est autant de moins que l'État ne touche pas et qui est considéré, y compris par Olivier Schrammeck dans un article intitulé « La fin de la laïcité fiscale » comme une subvention indirecte accordée au culte. Et qui vient en contravention de l'article 2 de la loi de 1905. Alors vous voyez qu'on a en effet un dispositif juridique extrêmement clair, loi de 1905, mais en fait des interprétations qui interviennent ensuite et qui visent précisément à détourner une partie de ce que la loi pouvait avoir de rigide. Le problème de l'attitude de l'Église vis-à-vis de la laïcité. Les choses ont profondément évolué sur cette question et on peut repérer essentiellement, si vous voulez, trois grandes périodes. La première période, c'est 1905. Et on voit que l'Église, sur cette question, est affolée devant cette loi de séparation des Églises et de l'État. Elle estime que c'est une loi inique, injuste, qui remet en cause la royauté sociale de Dieu. Et dans ses encycliques, Vehementer Nos et Gravissimo, Pilis est extrêmement clair sur la question. L'Église ne peut accepter un système qui la réduise à n'être qu'une institution privée quand elle a vocation à être au contraire la régente des esprits et des nations. Alors ce principe va être rappelé en 1925 encore, alors même que nous sommes sous le pontificat de Pie XI. C'est donc une première période qui est une période de résistance absolue au modèle de laïcité française. Il faut dire que ce modèle est alors un modèle extrêmement rigide qui comporte évidemment de très nombreuses traces d'anticléricalisme. Les choses, deuxième période, vont évoluer en 1945. Alors l'Église est encore fidèle alors au principe de l'État catholique, suivant lequel l'État doit diriger la société en s'appuyant sur une Église unique, l'Église de la vérité, l'erreur ne pouvant pas avoir les mêmes droits que la vérité. Mais l'Église fait un effort en novembre 1945 en précisant, on discute alors de la mention de la laïcité dans la Constitution nouvelle qui sera votée en 1946, l'Église accepte de considérer qu'en pratique, ce qu'on appelle en Église en hypothèse, qu'on puisse finalement accepter le principe de laïcité à partir du moment où ça n'est pas un principe positiviste ou anticlérical de laïcité. Et puis, la troisième phase interviendra à l'issue du Concile Vatican II, qui modifie totalement la thèse de l'État catholique et qui admet désormais la thèse de l'État démocratique constitutionnel. Et dans cette perspective, la laïcité devient impossible, devient une possibilité impossible dans le cadre de l'Église catholique post-conciliaire. Alors, que faut-il choisir ? Un État concordataire ? Un État fonctionnant suivant les principes de la loi de 1905 ? J'ai vu quelques attestations venant des évêques français, visant à dire qu'on pourrait éventuellement penser au retour à un concordat. Elles sont extrêmement rares. Le plus souvent, mais alors à 99% des textes que j'ai pu lire, il y a une adhésion au principe de laïcité, loi de 1905, à partir du moment où ce principe de laïcité de loi 1905 développe une laïcité d'ouverture permettant au culte de développer la liberté de religion. Cela ne veut pas dire cependant que l'Église accepterait qu'on remette en cause le concordat d'Alsace-Moselle. C'est aussi un acquis que l'Église entend préserver sur le modèle au fond d'une sorte de pluralisme juridique. Loi de 1905 pour la plus grande partie du territoire, modèle concordataire issu de 1801-1802 pour l'Alsace Moselle, avec une préservation également des régimes relatifs au territoire et au département d'outre-mer. Voilà pour l'instant, mais il y a une question sur laquelle nous pourrons revenir, c'est islam et intégration, et puis le problème de la laïcité dans les entreprises qui n'est pas du tout régie par les mêmes règles que la laïcité dans l'État, et je crois qu'il faudra revenir là-dessus, car il y a souvent sur ce terrain des incompréhensions qu'il faudrait lever peut-être.
Alors, Guy Coq, peut-être en réponse à ce qui vient d'être dit ou pour compléter, puis on va venir effectivement sur cette question de l'islam, la question qui vient de Bordeaux et en rapport aussi avec la mondialisation.
Guy. Oui, sur les en 1925, l'Église catholique dit que la laïcité, c'est pas possible, que 20 ans après, c'est pour dire qu'on peut toujours avoir un espoir d'évolution. 1945, c'est quand même, là j'aurais une lecture un peu différente de Philippe sur le sens de ce texte, parce que on n'est plus quand même dans ce texte, il n'y a aucunement mention de la question de la thèse et de l'hypothèse, et je dirais qu'un an après, et ce texte discutait déjà à ce moment-là, dans un grand article de Vialatou et Latreille dans Esprit, qui dit que la laïcité crée les conditions de la liberté de l'acte de foi, il y a une critique, disons, au bazooka de cette thèse et de l'hypothèse, où en fait l'Église accepterait la laïcité pour l'instant parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais le jour où on pourrait l'afficher en l'air, cette manière de raisonner a fait énormément de mal, disons, à l'Église dans les milieux que je fréquente, agnostiques ou athées, etc., parce que c'était pas possible. Donc voilà, là-dessus, sur le concordat, pour la curiosité et sans prendre trop de temps, je veux signaler que le dernier en France qui ait voulu faire un concordat, c'était un socialiste, c'était Guy Mollet. Au moment, dans les années 50 et des poussières, il était tenté de négocier un concordat. Pour quelle raison? C'est que le concordat est un asservissement de l'Église à l'État. Et c'était ça qu'il cherchait d'ailleurs dans ce cas. Voilà, il cherchait à reprendre le pouvoir sur une Église qui était libre. Bon. Alors maintenant, sur la question de l'Église aujourd'hui et de ses modèles, moi, il faut se fier aux textes, en effet, et les textes sont parfaitement clairs, ceux de 2005 notamment, où l'Église dit qu'elle accepte vraiment la loi de 1905. Donc, elle ne se contente pas de dire « j'accepte la laïcité », elle dit « il n'y a aucune raison de changer cette loi qui est une vieille loi, qui est symbolique, etc. Et, » qui nous convient quant à la liberté, quant aux libertés qu'elle nous donne, et on pourrait dire aussi quant aux avantages qu'elle nous donne, mais pas les seuls, parce que les avantages qui ont été ouverts à l'Église catholique, évidemment, sont automatiquement généralisables aujourd'hui aux musulmans, sauf que dans le cas des possibilités qui sont ouvertes, comme l'opinion française est assez stressée sur ce sujet, les villes ont peut-être tendance à ne pas trop se précipiter pour proposer des terrains pour faire des mosquées, et du coup, ou peut-être à mettre des freins quelquefois, ayant peur de leur opinion publique. Là on a une énorme difficulté. Alors, sur le plan international, il y a une urgence à la laïcité. Et il faut employer ce mot, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire sécularisation, comme font les Américains. Ça, ce n'est pas possible. Parce que la sécularisation n'est pas la laïcité. Au demeurant, sur un certain point, la Constitution américaine, c'est le 4e amendement, est très laïque et au fond, établit une sorte de séparation au niveau fédéral, hein, puisqu'il dit que le pouvoir fédéral ne fera pas de loi concernant les religions. Donc, laisse liberté des religions, liberté totale des religions. C'est aussi l'article 4 de la loi de 1905 que je vous conseille d'aller voir les textes quand même là, parce que c'est très important. Donc, mais alors, sur le plan international, ça, c'est urgent. On ne sortira pas du malheur d'un certain nombre de pays musulmans. Ces pays musulmans ne sortiront pas de leur malheur sans passer par une forme de sécularisation, et plutôt de passage à la laïcité, c'est-à-dire une distinction du pouvoir de l'État et du pouvoir des religions. Sortir de la confusion qui est la matrice même de l'islamisme et éventuellement des États terroristes qui pourraient naître de cela. Donc là, oui, il y a une énorme urgence. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils fassent comme les Français. On peut concevoir... le cœur du problème, c'est cela. C'est la séparation du pouvoir de l'État. L'État est souverain dans son ordre, comme dit très bien d'ailleurs la déclaration des évêques de 45. C'est une excellente définition. L'État est souverain dans son ordre. Et d'autre part, la laïcité, elle donne la liberté. Et donc, c'est très important. Voilà les points. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. La mondialisation remet-elle en cause la laïcité? Bien entendu, il y a des tentatives, mais à mon avis, j'espère bien que les gouvernements français en particulier seront rigoureux sur ce genre de principe. Il n'y a pas là-dessus à céder, et qu'ils seront de bons exportateurs de ce principe de laïcité qui, au demeurant, est un aspect de la démocratie. Laïcité et démocratie, ça va ensemble, si on y réfléchit. Là où il n'y a pas la liberté de croyance, séparation dont bénéficient les religions, et où l'État et où les religions peuvent prendre le pouvoir sur l'État, il ne peut pas y avoir de démocratie.
Merci Guy. Alors peut-être Philippe, juste pour revenir sur cette question de l'islam, comment l'islam de France se sent peut-être par rapport à ce modèle de laïcité d'intégration que vous évoquiez dans votre propos?
La question était, est-ce que la poussée de l'islam remet en cause la laïcité de l'intégration? C'était cela, je crois. Il faudrait prendre le problème autrement, en disant qu'il y a eu laïcité d'intégration parce qu'il y a eu poussée de l'islam, et la poussée d'un islam identitaire. La deuxième phase, celle qui court, disons, entre 1970 et 1990, avec en 1989 l'admission par le gouvernement Jospin de signes religieux, dans les écoles publiques. Il faut retenir ce point important. Avis du Conseil d'État et ensuite décision de Jospin visant finalement admettre cela, est marqué par une reconnaissance. Et l'on parle alors de la tendance multiculturaliste de la société française, en rupture d'ailleurs avec une tradition antécédente. C'est parce que dans les années 1990, on est confronté à la montée d'un islam qui à la fois s'affirme de manière plus identitaire et est relayé par la scène internationale comme pouvant être un islam dangereux et éventuellement terroriste, que la laïcité est amenée à modifier son modèle de fonctionnement, tout à la fois en restant ouvert à la possibilité de la reconnaissance, reconnaissance des identités religieuses, reconnaissance des identités religieuses individuelles et collectives, mais en même temps en accroissant de manière néo-gallicane ou néo-concordataire la surveillance ou le contrôle que l'État peut avoir sur l'expansion, sur le développement, sur la diffusion de ces identités qui peuvent paraître immaîtrisable par certains aspects. Donc on peut dire que s'il y a laïcité d'intégration à partir des années 2000, c'est en réponse précisément à une angoisse de l'opinion publique devant un problème qu'elle a du mal à maîtriser et qui l'amène à développer un nouveau référentiel d'organisation de la vie sociale qui est le référentiel de la cohésion. On voit ce mot de cohésion, des ministères de la cohésion sociale dans ces années-là, par exemple, dans tous les grands textes, à la fois français et européens. Européens du point de vue de l'Union européenne, européens du point de vue des pays appartenant à l'Union européenne. Et ça n'est pas un hasard, c'est parce que nous sommes dans une société qui, alors, est marquée par l'incertitude du devenir, par la question de la cohérence de son vivre ensemble, qui, à la fois, parce qu'elle est marquée par une tendance profondément individualisante, accepte les reconnaissances, mais entend que ces reconnaissances ne remettent pas en cause la cohésion sociale dans son ensemble. Alors j'ajoute immédiatement un point pour faire droit à la question qui a été posée au sujet de l'espace d'entreprise. Les espaces d'entreprise privés ne sont pas du tout régis par le principe français de laïcité qui ne vaut que dans l'espace public d'État. L'idée qui a prévalu en 1880-1905 et sur laquelle nous ne sommes pas revenus, c'est l'idée que l'association politique doit se construire dans la suspension de la croyance. L'association politique, c'est-à-dire l'espace public d'État. On demande aux fonctionnaires de ne pas porter de signes religieux ostensibles. On ne demande pas aux employés des entreprises privées de ne pas porter de signes religieux ostensibles. On admet que dans les entreprises privées, il puisse y avoir des salles de prière. Et je vous rappelle que dans le moment de la reconnaissance que je décrivais tout à l'heure, ce sont les usines Renault et les usines Peugeot qui, au moment des grèves du début des années 1980, ont ouvert sur les lieux mêmes de travail des salles de prière. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a aujourd'hui toute une réflexion dans les instances para-étatiques, et je pense en particulier au Haut Conseil de l'intégration, qui a souvent une ligne doctrinale sur le terrain de la laïcité bien plus radicale que celle qui est développée dans les instances gouvernementales. Le HCI, le Haut Conseil de l'intégration, vient de produire un texte où il demande l'application des principes de laïcité qui jusqu'alors ne valaient que dans la sphère publique d'État aux espaces d'entreprise que vous signaliez à l'instant. Ce qui renvoie à ce que je vous disais à l'instant, une extension des modalités de surveillance du religieux dans des sociétés qui sont en doute sur elles-mêmes. Peut-être un ultime point pour répondre à la question concernant le problème de la laïcité dans les pays méditerranéens. Je crois que c'est à cela que la question faisait référence. Tunisie, Égypte, demain Syrie, il y a un véritable débat sur cette question. Là encore, il faut voir que ces sociétés-là, Tunisie, Égypte, se sont construites autour de Bourguiba, autour de Nasser, sur le fondement d'un modèle de laïcité autoritaire. Et dans les années 1950-1960, le modèle qui a prévalu, c'est un modèle qui était un modèle de laïcité visant à séparer l'ordre religieux et l'ordre politique. Alors, il se trouve que ces sociétés-là ont connu des régimes néo-patrimonialistes. Et l'on a vu ces pouvoirs, qui au départ étaient nimbés de bonnes intentions, transformer leur propre rôle en rôle de prédation de la richesse sociale. Du coup, ça a beaucoup provoqué dans ces sociétés une sorte de rétraction religieuse dont on a vu les effets lors des printemps arabes. Alors, on en est là aujourd'hui. Rétraction religieuse qui a débouché, on l'a vu, sur l'arrivée au pouvoir de partis qui n'ont pas l'heure de correspondre à nos critères de laïcité. Alors, tout le problème, c'est de savoir si ces régimes vont persévérer dans l'être et remettre en cause une laïcité qui pourrait être fondée sur la distinction entre l'ordre religieux et l'ordre politique. Et c'est ici qu'on voit apparaître le troisième moment, me semble-t-il, qui peut faire référence à ce que disait Guy Coq à l'instant, la question des sécularisations. Ces sociétés-là sont des sociétés bien plus sécularisées qu'on ne le croit. On entend par sécularisation la perte de pertinence sociale du religieux pour les individus que nous sommes. Non pas perte de pertinence pour l'État, mais pour les individus que nous sommes. Et l'on voit bien que dans ces sociétés, les populations connaissent un processus important de sécularisation qui peut les amener, parce qu'ils se servent du religieux comme d'une ressource davantage que comme d'un fondement à leur propre existence, à remettre en cause les systèmes politiques qu'ils ont institués lors des élections consécutives au printemps arabe. On le voit en particulier en Tunisie, aujourd'hui, où lorsqu'on se promène dans les rues de Tunis à une année de différence, on voit un mouvement d'ouverture aujourd'hui de la population sur des pratiques vestimentaires, je pense aux femmes, qui sont des pratiques vestimentaires aujourd'hui bien plus occidentales qu'elles ne l'étaient il y a un an ou deux. Comme si précisément l'échec, ou en tout cas le doute sur la réussite des expériences du printemps arabe, les amenait, parce que ces populations sont sécularisées, à retrouver des comportements qui sont à extrême distance des impératifs de la loi religieuse.
Merci Philippe. Le temps passe. On va reprendre deux questions ou deux convictions, interventions. Oui, devant, Antoine. Père Henri Lot, président du Centre Sèvres.
Est-ce que vous ne pensez pas que, enfin, pour revenir à la situation française, une laïcité bien comprise et ayant évolué pourrait, au fond, faire une part plus importante aux valeurs, disons, aux ressources religieuses. C'est-à-dire, comment ne pas penser que les ressources de sagesse, d'éthique, des religions, sans vouloir s'imposer, évidemment, pourraient contribuer, au fond, ont leur place dans le débat citoyen, c'est-à-dire qu'elles contribuent, au fond, à l'édification du débat citoyen. Or, il semblerait qu'on soit dans une situation assez figée en France, où ces ressources paraissent suspectées. Une évolution récente, il y a quelques années, a été les mesures portant sur la reconnaissance du niveau des diplômes des facultés ecclésiastiques. On sait que très rapidement, cette mesure a été attaquée en Conseil d'État.
Oui, mais elle n'a pas été remise en cause.
Elle a été attaquée en Conseil d'État.
Pas par d'État,
mais bien sûr,
on fera le débat après. Oui, c'est la question. Voilà, merci. Une autre devant Antoine. Voilà, en restant.
Oui, j'aimerais qu'on revienne une seconde sur la sécularisation pour en avoir une idée plus complète et en particulier sur ce qu'on vient de dire, sur une sécularisation plus importante qu'on ne croit des sociétés arabes.
Et puis, troisième question qui est juste à côté, et puis on en restera là.
Je voulais demander, est-ce que sous certains aspects, la laïcité peut apparaître comme la nouvelle religion ? Ou du moins le nouveau dogme moderne.
Merci. Question très intéressante pour terminer. Voilà, je ne sais pas, Guy Coq, peut-être le débat était déjà engagé, la laïcité bien comprise, est-ce qu'elle pourrait peut-être faire davantage appel aux ressources des religions ?
Oui, sur la question des universités, en fait, ceux qui ont attaqué le texte n'a pas été remis en cause, mais il y a une lecture du Conseil d'État qui fait que c'était l'État précédent, en fait, qui a été comme renforcé, quoi, mais bon, j'entre pas dans le détail parce que c'est un sujet assez technique. Mais de toute façon, ça règle pas le problème de savoir, en effet, si nos sociétés doivent prendre plus en compte nos ressources religieuses, et c'était bien l'arrière-plan de mon intervention, de toute façon. Est-ce qu'il y a un espoir d'y aller? Je crois que oui, mais il faut peut-être que, alors, en particulier les chrétiens, apparaissent comme des défenseurs de certaines choses et même les aident à se faire. Je pense en particulier donc à l'enrichissement de l'enseignement sur les religions dans les écoles, au fait que dans les institutions qui vont s'ouvrir, nouvelles institutions de formation des enseignants, des professeurs pour les écoles et pour les collèges et lycées, la question de la formation à l'enseignement des religions soit prise un peu plus sérieusement. À la suite du rapport de Régis Debray, il y avait eu une institution qui avait été créée, qui devait normalement piloter tout cela, mais elle n'a jamais eu les moyens de faire ce travail. Et puis, c'est aussi un problème universitaire. Je ne vois pas pourquoi, dans les universités françaises, on n'étudierait pas, on n'aurait pas des spécialités plus nombreuses sur l'histoire de la théologie, l'histoire des théologies, aussi bien chrétiennes que musulmanes ou que juives. Je crois qu'il y a un gros travail. Je sais qu'il y a des réussites exceptionnelles dans telle ou telle université. On voit qu'il y a des choses formidables qui se font. Mais il y a probablement une résistance. Mais c'est un combat, en quelque sorte. C'est un combat, mais il y a eu quand même des ouvertures. Quand l'enseignement sur les religions a été reconnu comme quelque chose d'important pour les écoles publiques, ça a été un point très fort. Maintenant, la sécularisation, un des traits, c'est quand même le fait du pourcentage actuel en France de pratiquants du dimanche. La religion, disons, il y a moins de pratiques religieuses, etc. C'est tout cela, moins de baptêmes. Et la question est de savoir si c'est aussi grave qu'on le dit. Parce que on est encore dans l'esprit que c'était bien qu'il y ait peut-être 90% ou plus de baptisés. Seulement, c'était un rite social, c'était quasiment un rite d'entrée dans la société. Alors, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une sorte d'appui ou de tuilage entre des gestes religieux et autre chose. Mais c'est un fait, et qu'à partir du moment où l'État civil est ouvert à tout le monde et qu'il est laïque, bien sûr, le baptême est beaucoup moins intéressant. Il y a là, je pense qu'il y a un défi fait à l'Église en particulier, qui est majoritaire dans le christianisme français, à penser sa nouvelle inscription dans cette civilisation qui n'est pas plus mauvaise qu'une autre, qui n'est même pas plus anti-religieuse qu'une autre. Je sais bien qu'il y a eu des faits récents. Je trouve parfaitement scandaleux la manière dont les socialistes à l'Assemblée ont traité comme des moins que rien les grands responsables des principaux courants religieux français, qu'il s'agisse de Mgr 23 ou du grand rabbin Bernheim, d'ailleurs, dont le texte sur le sujet qui était en débat est un très très grand texte, un très beau texte, et des musulmans, qui eux aussi, d'ailleurs, étaient sur les mêmes positions. Il s'est trouvé qu'ils se retrouvaient, peut-être ça aurait dû poser des questions, d'ailleurs. Là, je pense que ça ne pourra pas tenir profondément, mais c'est très désagréable quand même que tout d'un coup, il n'y ait pas le droit d'exprimer une opinion divergente sans être immédiatement, disons, satanisé. De plus, ce qui ne s'est pas vu dans toute cette affaire, c'est que l'Église de France bouleversait ses positions sur l'homosexualité. C'est que soudain, on entendait des évêques dire l'amour homosexuel est très respectable. Ah ben, Oui, c'est très que il fallait voir comment aider justement, en effet, qu'ils aient un certain soutien, une certaine institutionnalisation. Il y a eu un bouger formidable qui est visible d'ailleurs dans le texte même. J'y renvoie de la commission, de la conférence des évêques, de la commission de famille, où on voit bien cette reconnaissance. Mais ceci n'a pas été vu. On a systématiquement renvoyé à l'Église les espèces de fantasmes sur qu'on avait du passé, sur son pouvoir, sur son désir de pouvoir. Mais il faut bien reconnaître que d'une certaine manière, on l'a mérité. Je veux dire par là que l'Église s'est quand même, à travers son histoire, rendue assez, assez désagréable. Peu aimable, comme dirait Mgr Albert Rouet. Il disait, il faut que l'Église se rende aimable. Mais elle s'est rendue assez peu aimable sur un certain nombre de positions et de difficultés à admettre la société sécularisée qui n'est pas chrétienne, qui ne sera plus chrétienne, et puis c'est pas intéressant. Est-ce que le fait que la société romaine ne fût pas chrétienne a empêché les grands saints et l'élan formidable spirituel qui a lancé le christianisme? Pour moi, le problème est là. C'est pas le nombre des chrétiens, c'est pas très grave, ils n'étaient pas très nombreux à l'époque, ils ont enflammé le monde connu. Ils n'étaient pas très nombreux, seulement ils avaient un degré d'intensité spirituelle, c'est ça qui manque au christianisme. Un degré d'intensité spirituelle qui fasse que ça soit peut-être un peu contagieux, quoi. Peut-être que le monde chrétien n'est pas suffisamment contagieux.
Voilà. Philippe.
Plusieurs choses.
C'est difficile de reprendre tout de suite après Guy. Je reconnais, oui.
La première chose porte sur la laïcité, nouveau dogme, je crois, ou ancien dogme. Il y a eu à plusieurs reprises dans l'histoire républicaine française cette tentation d'ériger la laïcité en nouvelle religion. Des gens comme Combes, par exemple, Émile Combes, était tout à fait dans ce courant qui visait, alors même qu'on instituait la République ou la laïcité en nouvelle religion, à dévaluer, à marginaliser et à vouloir éradiquer le phénomène religieux lui-même. Ce n'est pas ce courant qui l'a emporté en 1905. C'est un courant qui a fait reposer son analyse de la République et de la laïcité sur l'idée de liberté de conscience, ménageant des espaces de développement aux églises et refusant, parce que c'était un thème trop rousseauiste et par là même trop totalisant, trop intégrateur, d'accepter l'idée de religion civile qui était développée par l'autre courant du républicanisme. Ce n'est pas ce courant qui l'a emporté. Alors, de temps en temps, dans les textes des mouvements laïcs les plus durs, on voit ressurgir cette tentation. C'est une tentation qui, même du côté du mouvement laïque, est une tentation minoritaire. Second élément, il porte sur le problème du recours aux religieux dans nos sociétés. Alors, il me revient à l'esprit cette phrase de Johannes Rau, qui était président de la République allemande au milieu des années 2000, et qui disait qu'il fallait que l'Allemagne se différencie tout à la fois du système de confessionnalité scandinave et du système laïciste à la française. L'Allemagne, disait-il, est un système qui repose sur un régime de sécularité ouvert à l'apport civilisationnel des religions. Alors, est-ce qu'il y a là une si grande différence avec ce qui est advenu dans la France de ces dernières années? On peut dire que le discours de communication des grands dirigeants a cependant évolué. Il a cependant évolué dans le sens d'une ouverture plus grande, probablement, aux apports de sagesse, disiez-vous, de ressources de signification et de liens propres aux religions instituées ou aux religions historiques. On l'a vu dans les discours que François Mitterrand a prononcés, dans les confidences aussi qu'il a faites lors de l'installation du Comité consultatif national d'éthique. On le voit dans les années 1990 quand Lionel Jospin interviewé par La Croix rappelle aux journalistes qui l'interviewent que la démocratie a toujours besoin de discours de cohérence et que les religions sont des porteurs, des vecteurs de ces discours de cohérence. Et puis on pense évidemment à Nicolas Sarkozy qui, recevant les religions ou les autorités religieuses lors de ses derniers vœux, a eu cette remarque. Il est normal que l'État, quoique souverain, écoute les religions et pourquoi pas, de temps à autre, mette en pratique ce qu'elles nous enseignent. Voilà trois éléments successifs qui montrent bien que nos sociétés sont aujourd'hui en train d'évoluer. La dernière remarque sera pour François Hollande. Recevant les autorités religieuses lors des vœux, il a eu cette phrase qui consonnait avec celle de Nicolas Sarkozy. Je vous promets qu'il y aura une écoute pleine et attentive des forces religieuses dans les débats à venir. Il a évoqué en particulier le rapport Sicard autour de la question du suicide assisté. Alors tout cela nous renvoie, si vous voulez, parce qu'il faut toujours inscrire, je crois, le politique dans la substance, dans la texture, dans l'épaisseur du social historique. Et ce qui m'apparaît, c'est que l'analyse de Jürgen Habermas peut ici nous permettre de saisir cette écume des choses qu'est le discours politique dans le rapport qu'il peut avoir avec la profondeur de nos évolutions historiques. Habermas nous dit toujours, le problème de la mondialisation, et je reviens sur une des questions qui nous a été posée, c'est qu'elle vient bouleverser les structures d'intégration sociale ordinaire. Elle vient bouleverser en particulier et la délibération publique et l'institution étatique qui n'ont plus à elles seules les possibilités de résoudre les problèmes de ce monde d'incertitude et de mouvement permanent. Il est donc, rappelle Habermas, nécessaire pour les sociétés politiques d'aujourd'hui de retrouver un médium d'intégration dans un débat public qui trouverait à se ressourcer auprès des ressources de sens, des ressources de liberté, des ressources de lien propres aux institutions ecclésiales. À condition cependant, et il me semble que l'épiscopat français a pris ce tournant depuis en gros les années 1970, que les institutions ecclésiales elles-mêmes fassent un signe au régime de laïcité, au régime de démocratie, en acceptant la possibilité, de leur point de vue, d'un dissensus durable qui leur permettrait d'échapper à cette croyance qui a longtemps été la leur dans leur propre privilège de véridicité.
Merci beaucoup Philippe Portier, Guy Coq. Merci de tout ce que vous nous avez dit ce soir, de l'éclairage, de vos convictions aussi, qui nous permettent d'avancer dans notre propre réflexion sur un dossier complexe qui n'a pas fini de nous solliciter dans l'avenir. Merci. Je vous rappelle notre prochaine soirée d'éthique le mardi 12 mars et non le 5 mars en raison des vacances du Centre Sèvres sur le thème « La médecine doit-elle et peut-elle rester un service public ?». Vous trouverez à la sortie des urnes où vous pourrez déposer votre libre participation aux frais. Merci de votre fidélité et très bonne soirée à tous.